Sí.
Depuis quelque temps, sur Radio Salève, en particulier dans l'émission Ouvre ta fenêtre, nous avons été amenés à évoquer les problèmes qu'on appelle problèmes de l'occultisme. Et ce matin, mon invité est Cécile, une amie qui a accepté de venir passer un petit moment ici au micro de Radio Salève. Cécile, tu es venue nous parler d'une expérience que toi-même tu as faite avec l'occultisme.
C'est ça, oui, j'ai vécu beaucoup de choses pendant toute la période de l'adolescence à ce niveau-là, et j'ai été délivrée vraiment miraculeusement cet été.
Alors justement, première question que j'avais envie de te poser, bon, tu es chrétienne, tu es issue d'une famille chrétienne, et pourtant l'occultisme a une place dans ta vie. Comment est-ce que tu expliques ça?
Je pense que ça vient un peu des rencontres que j'ai faites dans le milieu de l'école, le milieu scolaire, avec tous les gens qui touchent à ces phénomènes et qui les transmettent peut-être.
Et comment ça s'est concrétisé pour toi? Comment est-ce que tu t'es rendu compte, si tu t'en es rendu compte, qu'il y avait quelque chose de bizarre?
J'en ai pas été consciente tout de suite, mais ça a commencé assez tôt, à l'âge de 12 ans. J'ai commencé à entendre des voix qui me parlaient le soir, j'avais terriblement peur. Et mes parents rigolaient plus ou moins, pensaient que c'était des peurs d'enfants toutes simples. Mais ça m'angoissait vraiment, et quand je sortais de ma chambre, ces voix se taisaient.
Alors, ça voulait dire que pratiquement c'était attaché à un lieu.
Oui, c'était attaché directement à moi. Quand j'étais avec d'autres gens, ça s'arrêtait. Ça dépend de la sorte de gens. Quelquefois, c'était des crises d'angoisse physique, plus pouvoir marcher, parler, où les mots perdaient leur sens. Ça se traduisait par toutes sortes de choses, maladies.
Et comment est-ce que tu pouvais être sûr que c'était pas quelque chose de simplement psychologique?
J'en ai pas été sûre du tout. D'ailleurs, l'école où j'étais a signalé ça à mes parents, et l'infirmière du lycée a dit à ma mère, il faudrait qu'elle aille voir un psychologue ou un psychiatre. Elle a des problèmes nerveux assez importants. Elle est associable. On a du mal. Alors je me suis retrouvée chez un psychiatre avec beaucoup de peine. C'était assez difficile d'accepter l'idée d'être folle, enfin parce que je pensais vraiment être folle. Ça n'a rien donné, sinon qu'il a conclu que j'étais attirée par le néant, enfin tout ce que je savais déjà. Ça n'a vraiment rien donné de plus, ça m'a fait me perdre dans les dédales de la pensée un peu. Je savais vraiment plus du tout, je
Tu savais
comprenais
plus où
plus.
tu en étais.
Il remettait tout sur mon passé, sur des choses vécues, sur des barrières, comme quoi j'acceptais pas ce que j'étais, ou des choses qui me paraissaient fausses, enfin n'avoir aucun rapport avec ça.
Et comment est-ce que tu as pris conscience que c'était des forces occultes qui travaillaient à travers toi?
J'ai trouvé un livre une fois qui parlait de tout ça. Je l'ai pris. C'était un livre qui traitait du problème du spiritisme en général et qui racontait beaucoup d'expériences vécues avec des gens comme ça. Et j'ai pris la page des témoignages, j'ai lu uniquement ça, et la page des symptômes. Je suis tombée là-dessus, j'ai lu ça, et j'ai eu très peur parce que j'ai reconnu tout ce qui se passait en moi, c'est-à-dire des angoisses qui reviennent souvent, des obsessions, cauchemars, nuits blanches, des apparitions, tout ce qui revenait, l'impossibilité de communiquer. Et là, j'ai vraiment pris peur, mais je me suis dit, j'essayais de me calmer seule et de dire, bon, c'est peut-être l'âge, finalement, c'est peut-être vrai ce qu'on me dit, c'est peut-être que je suis en train de changer. J'essayais de me calmer comme ça.
Et où en était ta relation avec Dieu à ce moment-là?
Elle était très loin, j'avais assez peur, je remettais un peu tout en question, je me demandais s'il existait vraiment, étant donné que j'avais été élevée dans une famille chrétienne. Je ne savais plus trop si ce qu'on m'avait dit c'était vrai, si ce que je croyais venait de l'éducation simplement, ou si c'était vraiment quelque chose que je croyais au fond. Je mettais tout en doute. Et quelquefois, quand j'avais vraiment très peur, j'essayais de prier, mais j'étais obsédée par des tas d'images très malsaines, des images cruelles, qui m'empêchait de prier, de penser, et qui me faisait peur. Et finalement, ça se calmait après, quand j'arrêtais de prier. Ça faisait comme deux choses qui s'opposaient
Il y avait
vraiment.
une opposition à ta prière.
Voilà. Des images de souffrance, par exemple, je voyais souvent un fer à repasser brûlant qui se posait sur le visage de quelqu'un que j'aimais, ou des choses comme ça, des choses atroces qui faisaient très peur.
Alors, il y a quand même eu un jour un déclic, puisque ce matin tu viens nous en parler apparemment de
Oui,
l'extérieur.
C'est-à-dire que il y a eu toute une évolution là-dedans. J'ai commencé à me détourner complètement de Dieu et de ce que je croyais. J'avais plus du tout aucune relation avec Dieu. Je ne lisais plus la Bible. Et j'étais fiancée avec un garçon chrétien. Et j'avais toujours du mal à supporter qu'il me parle de tout ça. Pour moi, je voulais trouver toute seule mon chemin. Je voulais voir moi-même ce que je devais choisir et plus être sous le joug d'une éducation, de choses qu'on me disait et qui n'étaient pas choisies vraiment. Alors je commençais à être vraiment énervée à chaque fois qu'il m'en parlait. Finalement, je me suis plus ou moins lancée dans le théâtre. Là, j'ai vu tout un milieu tout à fait différent de ce que je connaissais.
On dit que le milieu du théâtre est un milieu où le spiritisme a beaucoup d'influence.
Oui, d'ailleurs là-bas j'ai rencontré un médium. Je ne savais pas du tout qu'il était comme ça, mais il s'amusait quelquefois à des petits jeux. Il me disait, tiens, je vais te montrer quelque chose, je me couche par terre, je vais me concentrer. Au bout d'un moment, je te fascine, tu me dis le nom d'une personne que je ne connais pas du tout et je te la décrirai. Moi, je trouvais ça rigolo. J'ai fait ça, je lui dis le nom de ma grand-mère, il m'a tout décrit, ses maladies, ses enfants, ses cheveux, tout. Alors, moi, je trouvais ça assez drôle, je pensais rien, ça m'inquiétait un peu quand même, enfin, ça m'avait marqué quand même. Et il y avait des phénomènes de télépathie entre lui et moi, c'était assez fréquent, on n'avait pas besoin de parler, on savait toujours tout, c'était assez inquiétant, c'était assez profond. Et puis ça commençait à tourner de plus en plus mal. Je commençais vraiment à penser que j'étais folle parce que au théâtre, j'avais plus la résistance nerveuse, c'est-à-dire qu'au lieu de jouer, je devenais l'autre et ça finissait toujours en crise de nerfs, de larmes, de rire, c'était incompréhensible. Alors bon, je pensais simplement que c'était moi qui supportais pas parce que j'étais un peu trop faible. Et puis, parallèlement, tous les phénomènes augmentaient dans ma vie personnelle. La nuit, c'était impossible de dormir. Le matin, je pouvais pas me réveiller. C'était horrible de penser que j'aurais une journée à tirer jusqu'au soir. Il y avait l'obsession du suicide. Je regardais par ma fenêtre et je me disais, ça serait pas mal de finir maintenant. Mais j'avais peur de la mort, je savais pas ce qu'il y avait après. Et toute une inquiétude, une angoisse de la vie, de la mort, de tout. Et puis, mon fiancé, à ce moment-là, était dans un alpage. Pour moi, je devais y aller, mais cette image de pureté m'énervait. Je pouvais plus, je savais que là-bas, ça serait trop pur pour moi, que je pourrais plus supporter ça. Alors, je suis pas montée tout de suite. J'ai été à Paris, à Avignon, j'ai traîné un peu partout, mon angoisse. J'ai rencontré des tas de gens bizarres, c'était une période obscure. Je ne me souviens pas tellement de tout ce qui s'est passé.
Finalement, tu es quand même allée jusqu'à cet alpage.
Oui, je suis montée péniblement là-haut. J'avais plus de force physique. J'étais complètement épuisée nerveusement. Je tremblais, je pleurais sans raison, sans savoir, complètement perdue. J'étais souvent inquiète parce que j'avais l'impression de me dédoubler. Quelquefois, j'avais l'impression de me regarder vivre et d'avoir une espèce de puissance après un déclic, de pouvoir manipuler les gens.
Tu as fait l'expérience de ça ?
Oui, ça m'est arrivé souvent de prévoir les actions de quelqu'un ou les paroles, de le démolir complètement, de le faire arriver à être angoissé. Enfin, je pouvais vraiment faire ce que je voulais des gens. Si j'avais envie de voir quelqu'un angoissé, je savais que je pourrais le faire. Je pouvais faire ce que je veux. Il y avait une sorte de télépathie, je sais pas qui.
Et paradoxalement, en même temps que tu avais cette espèce de pouvoir, toi tu étais de plus en plus bas.
Voilà, j'étais de plus en plus bas, j'en pouvais plus, je supportais plus d'être seule parce que j'avais peur, les angoisses revenaient. Je pouvais plus voir du monde parce que je haïssais tout le monde, je me haïssais moi-même, je pouvais pas tellement supporter de voir d'autres gens. Surtout que je vivais surtout dans un milieu chrétien. Et c'était de plus en plus insupportable, j'avais mauvaise conscience, je ne me sentais pas égale aux autres. J'avais vraiment l'impression d'être inférieure, d'être folle, d'être considérée comme une paumée partout. C'est ce que j'étais d'ailleurs, c'est pour ça que ça me gênait sans doute.
Et alors l'alpage ?
Je suis arrivée là-haut et puis tout s'est passé comme j'avais prévu, c'est-à-dire qu'il a commencé à me dire « j'aimerais bien qu'on prie ensemble, qu'on lise la Bible ». Ça m'énervait, et en plus je le supportais pas physiquement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on commençait à lire ou à prier, je m'endormais systématiquement, ou bien j'éclatais de rire. C'était un rire que je pouvais absolument pas contenir, qui faisait peur à Olivier aussi. C'était insupportable pour tous les deux. J'avais des maux d'estomac, des crampes, j'avais du mal à manger, je pouvais pas marcher, aucune force physique. Et puis un jour, Olivier me raconte une histoire tout à fait par hasard. Il me raconte l'histoire d'une femme qui avait vécu une histoire en rapport avec le spiritisme et tout ça, qui avait vu un homme en face d'elle, et dans cet homme, elle avait reconnu un démon, et elle avait été obligée d'aller prier. Et quand il m'a raconté ça, je me suis dit, mais ça a produit un déclic. J'ai tout d'un coup réalisé que peut-être que ça existait, tout ça, peut-être que Satan existait vraiment après tout, que c'était pas simplement un conte pour faire peur aux enfants, et puis que Dieu était là aussi. Ça s'est mis à tourner à toute vitesse, mais je pouvais plus rien dire. Tout d'un coup, je me suis aperçue que finalement, moi, j'étais ça, que j'étais un démon, et que je pouvais plus le dire, c'était fini. Je savais qu'il y avait un autre en moi, tout d'un coup, j'en avais pris conscience.
Et à ce moment-là, tu n'as pas pu le dire, tu n'as pas pu l'exprimer.
Non, impossible. Et je suis restée 3 jours avec cette angoisse, complètement malade, sans pouvoir rien dire. Olivier ne comprenait plus du tout ce qui se passait, mon attitude. Les fous rires étaient de plus en plus fréquents, les crises de larmes aussi, les angoisses. Ça allait vraiment de plus en plus mal. Je luttais, j'essayais même de prier. Quelquefois, je m'enfermais de nouveau dans la chambre, toute seule. Et puis, je reprenais la Bible, je relisais les promesses de Jésus. J'essayais de prier en ayant l'impression de parler à un mur. Je disais à Dieu, mais si c'est vrai tout ce que tu as écrit, ben délivre-moi, moi j'en ai besoin, j'en peux plus, je sais pas, je comprends rien. Je parlais vraiment comme ça, cœur ouvert, en ayant l'impression de parler dans le vide, mais je le faisais quand même. C'était un grand soulagement. Et au bout de 3 jours, on a passé une journée terrible. J'avais décidé de dire ce qui se passait, mais j'avais un mal fou, j'arrivais pas. Tout d'un coup, j'étais cruelle, violente, je manipulais Olivier à tel point qu'il savait plus du tout où il en était. Il y avait une atmosphère très lourde dans le chalet, c'était insupportable. Tout était bizarre, comme voilé. Je disais des choses méchantes en sentant que ça partait, que je pouvais plus m'arrêter. J'avais plus aucun moyen de lutter contre tout ça. Et je me disais, mais arrête, mais c'était plus moi, c'était autre chose qui luttait. Et
finalement, t'as quand même réussi à dire ce que tu voulais dire.
Il y a eu, bon, toute la journée s'est écoulée comme ça. Et puis, à un moment, ça allait tellement mal. Au cours de toutes ces années, j'étais aussi devenue très masochiste, j'aimais me faire mal. Et là, j'ai atteint une crise d'angoisse qui comprenait tout ça. Donc, finalement, j'ai dû partir un moment dans la montagne. J'étais complètement épuisée. Et quand je suis revenue le soir, il y avait toujours cette atmosphère qui me suivait, lourde. J'avais tellement peur qu'on recommence à parler de la Bible, de Dieu, que je me suis mise à hurler, à chanter. J'étais complètement excitée. Olivier ne comprenait pas. Et puis tout d'un coup, je suis tombée dans une crise d'angoisse très profonde où je ne pouvais plus rien articuler, plus parler, j'avais plus de force. Je disais que rien servait à rien, que de toute façon je serais foutue, que Dieu c'était rien du tout, un imbécile qui ne pouvait pas tenir ses promesses. Je me suis mise à blasphémer. Et puis tout d'un coup, je dis, mais ça y est, maintenant il faut que je le dise. Et je me tourne vers Olivier, je lui dis, bon, je veux dire quelque chose. Et à ce moment-là, tout se bloque, je ne pouvais plus parler. Et des bruits sont mis à éclater tout autour du chalet, comme des coups de feu. On ne comprenait pas ce que c'était. Enfin, Olivier surtout ne comprenait pas. Je me transformais à chaque fois que ces bruits venaient. J'arrivais pas à dire ce qui se passait. Je savais
que... Et qu'est-ce que tu voulais dire ?
Je voulais dire que j'étais un ange du mal, que j'étais un démon, qu'il y avait quelqu'un en moi, que j'étais pas toute seule. Et impossible, tous ces bruits me faisaient peur. Je savais qu'ils se rapprocheraient du chalet, qu'ils nous tomberaient dessus, que c'était de ma faute, qu'il fallait que je dise et que je pouvais pas. C'était tout un mélange. Tout s'est mis à tourner à toute vitesse. Et puis, je voyais qu'Olivier commençait à être un peu tendu aussi, qu'il commençait à avoir un peu peur. Tout d'un coup, il sursaute, il voit une lueur contre le mur. Il y avait des éclairs. Les bruits sont rapprochés, ça commençait à taper dans le bois, dans les volets. C'était un chalet tout isolé à 1600 mètres d'altitude. Il sursautait à chaque fois, il essayait de se détendre et de ne pas me faire sentir ça. Il me disait, mais bon, moi je vais m'endormir si tu me le dis pas. Il essayait d'être assez doux, de me pousser, mais c'était impossible. Physiquement, je pouvais pas, je hurlais, je pleurais, mais je pouvais pas articuler ça. Et puis, tout d'un coup, dans un souffle, je réussis seulement à dire, au bout d'un long moment, je suis un ange. Et après la journée vraiment horrible qu'on avait passée, Olivier était un peu surpris, il a presque pris ça pour une plaisanterie, mais mon état ne pouvait pas le laisser penser complètement que c'était une plaisanterie. Alors il me dit, un peu ironique, un ange du bien. Évidemment, je ne voulais pas du tout dire ça. Alors, voyant que j'approuvais pas, il dit, un ange du mal. Et à ce moment-là, ça a fait comme un déclic, comme si l'autre avait été démasqué. J'ai été projetée en l'air très violemment. J'ai senti une crampe qui a pris tout mon corps. Toute ma figure s'est complètement tendue, je ne pouvais plus rien articuler, j'avais la bouche complètement ouverte, les yeux me faisaient mal, tout faisait terriblement mal. Et mon bras droit s'est dirigé sans que je puisse rien faire sur la gorge d'Olivier. J'ai commencé à l'étrangler très fortement, il ne pouvait pas se défendre, il ne pouvait rien faire.
C'était une force qui était plus grande que la tienne.
Oui. Beaucoup, beaucoup plus grande d'ailleurs, parce que bon, lui venait de faire un alpage, de travailler en montagne, de transporter des tas de choses. Moi, j'arrivais de la ville.
Physiquement complètement épuisé. Oui.
Et il n'arrivait pas à se débarrasser de moi. Et tout d'un coup, il y a eu un éclair, j'ai réalisé ce qui se passait. Je voulais qu'il prie. Il me semblait que c'était la seule solution. En un quart de seconde, j'ai voulu dire prie, mais j'arrivais pas. Et je voyais son visage qui commençait à être angoissé, qui me regardait complètement impuissant. Et je pouvais rien articuler, je pouvais pas dire prie. Et tout d'un coup, ça s'est ouvert, il y a eu une voix qui est sortie de moi et qui a dit prie, Olivier. Alors que ma bouche n'avait pas du tout bougé. Et à ce moment-là, il a hurlé au nom de Jésus, sors. Et je suis retombée d'un coup, complètement détendue. C'était comme une force qui était sortie tout d'un coup violemment. Et puis c'était fini, c'était incroyable, c'était tout d'un coup la paix, le silence partout, c'était fou la différence. Olivier a réalisé tout ce qui s'était passé, il s'est mis à avoir peur un petit peu, il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe, elle joue encore la comédie, ça continue.
Toi, qu'est-ce que tu as vécu à ce moment-là, au moment de cette libération?
J'ai senti une force qui sortait de moi. J'ai senti que tout d'un coup tout devenait simple, que l'autre était parti, que quelque chose avait été éliminé.
Et tout ça simplement parce qu'il a dit au nom de Jésus, sors.
Oui, au moment où il l'a dit, donc j'étais crispée, je l'étranglais et je pouvais rien faire, quoi. J'étais vraiment au pied de la mort, je la voyais. Et puis, dès qu'il a dit ça, je suis retombée, c'était fini, ma main s'est desserrée, tout s'est calmé, les bruits ont cessé. C'était une paix immense et indescriptible. C'était tout d'un coup le calme que j'avais plus connu depuis 4 ou 5 ans. Et puis, je me suis relevée et j'ai dit, Olivier, mais ça y est, maintenant c'est fini, je serai tranquille. Je suis délivrée, c'était ça. Je savais que c'était ça, je voulais le dire. Et puis, ça y est, Dieu m'a aidé à le dire. Et on a commencé à lire la Bible, à prier. J'avais tellement envie de remercier Dieu, tout d'un coup de tout ce qu'il avait fait pour moi gratuitement, alors que je lui demandais pas, au contraire, je blasphémais, j'étais opposée à lui assez farouchement. Et puis tout d'un coup, qu'il vienne à moi pour me délivrer comme ça, pour me donner cette paix si immense, au moment où je me posais des questions, enfin, cette réponse à une question que je posais même pas, finalement, c'était tellement, tellement merveilleux.
Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie depuis?
Ça a changé tout. Complètement, j'ai l'impression d'être une autre personne tout d'un coup. Plus aucun des phénomènes ne se reproduisent, il n'y a plus d'angoisse, c'est incroyable. J'ai l'impression que c'est simple et je suis heureuse. Et ça, c'était une grande découverte, le bonheur. C'était un mot dont je ne comprenais absolument pas le sens. J'en avais entendu parler en philosophie, en religion, c'est tout, mais je ne comprenais pas le sens de ce mot.
Tu as découvert aussi une relation possible avec Dieu, avec Jésus-Christ?
Oui, c'est surtout ça qui m'a. qui m'a fait connaître le bonheur. J'ai découvert que tout d'un coup, toutes ces puissances des ténèbres, ces angoisses, ces phénomènes qui se passent dans le monde partout, qui entourent tout le monde et auxquels beaucoup de gens touchent, finalement, on peut les vaincre facilement par la puissance de Dieu.
Tu dis auxquels beaucoup de gens touchent. Tu crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont sans le savoir posséder ?
J'ai l'impression, maintenant que je vois d'un œil extérieur, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens que j'avais vus avant, qui connaissaient le même phénomène que moi, qui ne savaient pas, qui étaient engagés. J'ai été saisie, je m'étais raconté ce qui m'était arrivé. Et ils se sont interconnus là-dedans. Souvent, ils ont eu des réactions bizarres, violentes, à la parole de Dieu, quand j'essayais de leur en parler avec eux. Mais je vois de plus en plus de gens qui ont des problèmes comme ça. Ça suit une angoisse. C'est une angoisse peut-être tellement grande. Ils ne cherchent pas plus de solutions.
La solution, c'est quoi ? C'est uniquement que quelqu'un de l'extérieur intervienne comme on dit, intervienne
pour toi, ou bien est-ce qu'une personne qui est dans cette situation peut s'en sortir simplement en faisant appel à Dieu ?
Je crois que Dieu est le seul qui peut délivrer une personne, mais ça se passera jamais de la même façon. Ça peut être un appel à Dieu personnel, que tout d'un coup on s'aperçoit dans quelle angoisse on est, dans quelle situation, on s'aperçoit qu'on est pris par Satan, et à ce moment-là on peut crier à Dieu, et je suis persuadée qu'il écoute tout le monde. Mais ça peut être aussi, et beaucoup, les prières des gens qui entourent cette personne, qui font que Dieu répond. Et Dieu répond toujours au moment où il faut répondre, au moment juste. J'ai réalisé pour moi qu'il avait répondu exactement au moment où il fallait répondre. Ça aurait été plus tôt, peut-être que je ne l'aurais pas compris. Là, c'était dans un cadre qui me permettait de me détacher de tout d'un coup. Je me suis détachée très facilement du théâtre, alors que deux semaines avant, c'était toute ma vie. J'étais loin de tout, j'étais dans un cadre paisible. J'étais plus en contact avec des gens malsains et Dieu est intervenu juste là. C'était un moment charnière. Il est venu là et ça a complètement tout transformé.
Autrement dit, Dieu sait comment et quand il faut agir. Simplement,
voilà,
il faut avoir envie qu'il agisse.
Voilà, c'est ça. Croire qu'il est là, qu'il est auprès de nous, même dans des situations où c'est impossible, lui parler tout le temps, même si c'est un mur, même si on a l'impression qu'on parle dans le vide, lui parler, s'adresser à lui en lui disant « mais... bah, t'es là, moi j'en sais rien, j'en suis pas conscient, je suis dans l'angoisse, j'en peux plus, mais ça fait rien, il paraît que t'es là, c'est toi qui le dis dans la Bible, alors fais quelque chose, moi j'en peux plus.
Et puis, il fait quelque chose.
Il fait quelque chose, c'est sûr.
Merci Cécile.